Are you racing or watching?
La dispute. Ce soir, la musique. Cette émission est préparée par Aïssa Tundoj, Lucille Como, Boris Pino et Grégoire Di Fior et prise de son assurée ce soir par Pierrick Monsigny, réalisation Daniel Fino. Autour de moi ce soir, Pascaline Potvin, Sophie Rosemont, Olivier Lam. C'est une première pour Pascaline. Joannesta Grazia, bienvenue à elle. À notre programme, The Ooze de King Cruel chez XL Recording. La fête est finie, Norel San, troisième bureau, et Cannibal de Calypso, Valois chez Pias. Présent également Boris Pino qui surveille d'ores et déjà le fil Twitter Dispute FC. Si vous avez des commentaires à faire sur les disques dont nous parlons ce soir, n'hésitez pas à le faire. Toujours des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute ce soir. Des coffrets DVD de Lina, 6 films sur le théâtre avec films de Jean Anouilh, Samuel Beckett, Bertolt Brecht, Eugène Ionesco, Henry James et Louis Jouvet. Archie Evan Marshall s'est d'abord fait connaître sous le nom de Zoo Kid avant d'en choisir quelques autres, et notamment en 2011, le pseudo de King Cruel. À 23 ans seulement, l'auteur, compositeur, interprète, producteur londonien sort son deuxième album sous ce nom de King Cruel, dérivé, dit-on, du film King Creole d'Elvis Presley. Il avait sorti il y a 2 ans un album sous son vrai nom. Bon, voilà de quoi brouiller les pistes, mais pas tant que l'écoute de ce dernier album dont il était rigoureusement impossible de choisir une plage représentative, on va en parler. Donc on écoute Dumb Surfer. Oh,
dilute in our suffer from whiplash. This girl's now screaming, I think we're gonna crash. The driver's speaking and the car is still intact. It was only minor, oh that's the end of that.
L'album s'appelle The Ooze. C'est comme ça qu'on vous appelle, en fait, dans l'intimité. Olivier Lame.
Derrière mon dos, alors.
Derrière votre ?
De mon dos.
Ah, votre oui. Dos. Votre doigt, je croyais.
Derrière mon doigt aussi.
Allez, vous ouvrez le bal.
C'est un très beau disque. C'est un très très beau disque dont j'aime surtout l'énorme ventre mou. C'est un peu un énorme ventre mou qui fait complètement...
C'était là, celle-là, l'extrait que vous vouliez passer.
Oui, qui s'appelait le Sublunary. Mais il y a beaucoup de morceaux un peu comme ça qui sont totalement démantibulés. On cherche un petit peu l'essence et en fait, il ne faut pas du tout la chercher. Il faut se laisser, j'ai envie de dire, parasiter par l'essence du disque. Et c'est là un peu qui dévoile ces richesses qui sont assez immenses, je trouve. C'est un artiste, quand on l'a découvert... qui donnait une impression très rare, en tout cas avec les artistes britanniques de ces dernières années, je trouve. Hein, ce vaste champ de mines et de gentrification qui est devenu l'Angleterre contemporaine. Vraiment d'assister à la naissance d'un artiste comme une sorte de miracle, où on a vraiment l'impression que c'est un type, la première fois où on lui a mis une guitare entre les mains, il y a son individualité qui a coulé partout, et avant même de savoir en jouer, il savait faire quelque chose d'intéressant. Et c'est pas seulement une voix, c'est un artiste qui est intéressant de mille manières. Alors d'abord, quand on lui met une guitare entre les mains et juste un micro, il se passe quelque chose d'assez impressionnant. Donc je renvoie les gens à l'album précédent, qui était beaucoup plus cru, moins plastique et moins ambitieux. Celui-là, c'est, je pense, c'est peut-être son premier vrai disque d'artiste. Et c'est quelque chose, moi, qui m'intéresse beaucoup. Parce qu'il fait de la chanson, c'est des vraies chansons, mais il fait de la chanson comme on fait de la musique électronique depuis quelques années, à savoir d'abord en pensant à l'ambiance et à la plastique, et il coule là-dedans ça a son âme de manière assez passionnante. J'entends énormément de choses dans ce disque et dans ces chansons. Ce qui est intéressant, c'est que en même temps, ça reste toujours assez impénétrable, assez mystérieux. On entend de la soul anglaise, on entend du trip-hop. Moi, j'entends beaucoup... quand je dis trip-hop, c'est le seul bon trip-hop, à mon sens, c'est Maxine Quay de Tricky. Ça s'arrête à peu près à ça.
On connaît vos goûts très, très larges.
Hein. Très larges, voilà.
Ouais.
Ou le jazz anglais, un peu à la Rip Reggae and Panic. Voilà, les débuts du jazz anglais. Avant Everything But The Girl. Mais en même temps, c'est complètement contemporain. Et on entend du dubstep aussi. On entend ces nappes au loin qui sont celles qu'on entend dans la musique anglaise, moi qui m'intéresse, la musique londonienne plus particulièrement, électronique.
Un quartier de Londres, non, plutôt à conseiller.
Croydon.
Voilà, j'ai été sûr.
Et qui court comme ça depuis, on va dire, depuis la fin des années 80, et qui a traversé tous les genres musicaux de la musique électronique intéressant jusqu'à nos jours. Et on a l'impression qu'il a réussi à le concentrer et à se l'approprier. C'est quand même quelque chose d'important, je pense, pour la pop anglaise.
Alors, Pascaline Potvin, vous avez rencontré Le jeune prodige, j'ai lu ça.
Oui, oui, tout à fait. J'ai rencontré le jeune prodige qui était pas très réveillé le jour où je l'ai rencontré, mais qui était charmant, qui cachait, je pense, sous pas mal de timidité, il était très timide, il avait un côté très bien élevé, donc il le rendait très très touchant. Et moi, j'aime beaucoup ce disque, parce que déjà, effectivement, je trouve que c'est celui de toute sa discographie qui a le plus de consistance, qui est le plus riche, effectivement. Et pour moi, c'est un vrai disque de poète. En fait, il y a plein de choses. C'est un disque très très impressionniste. Il me donne l'impression d'une longue déambulation comme ça dans le sud de Londres, qui est son quartier. Une déambulation nocturne. On va passer dans des ruelles, des cours d'eau, des bars. Alors effectivement, comme dans toute déambulation, il y a des moments où on se perd, des moments où voire on peut s'ennuyer aussi un petit peu. Je pense à ce ventre mou dont vous parliez, Olivier. On s'ennuie, mais c'est quand même très beau. On a quand même des atmosphères, des choses qui se passent.
C'est là où on est le mieux, en fait, dans votre monde.
Peut-être, voilà, c'est ça. C'est quand on
se
perd aussi.
Vous êtes le mieux.
C'est quand on se perd pendant une promenade que quelquefois on découvre les plus belles choses. Donc voilà, moi, c'est ce qui me touche dans ce disque. Et pour moi, c'est vraiment un disque de poète. On sait qu'il a écrit après une rupture sentimentale, donc il creuse vraiment.
C'est original.
C'est pas original, mais il le fait de manière.
Plaisante.
Il le fait, c'est pas original, mais il arrive à le faire de manière très singulière et avec de la personnalité. Donc c'est un disque de souffrance qui creuse toutes les strates comme ça de la dépression, un disque de voyage, donc des déambulations, et donc un disque d'amour. Et pour moi, c'est trois choses mises ensemble, la souffrance, l'amour, le voyage. C'est vraiment quelque chose qui me ramène au poète même du 19e siècle, quelque chose de très saturnien dans ce disque. J'ai lu les textes aussi, donc j'ai pas tout compris, parce que c'est un anglais un peu compliqué, très imagé, très fouillé, encore une fois, très impressionniste. Mais voilà, pour moi, c'est un disque de poète. C'est pas la première fois qu'il fait de la poésie. Quand il avait sorti son album New Place to Drown, il l'avait accompagné d'un livre qu'il avait fait avec son frère, où il y avait notamment des textes, des poèmes, des images. Et donc voilà, c'est ce que je trouve intéressant chez lui, dans ce disque. Pour moi, c'est la naissance d'un vrai poète, et c'est à rapprocher. Je pense à Kate Tempest, qui fait pas du tout la même musique, mais qui est une jeune anglaise aussi, qui fait plutôt du rap en ce moment en Angleterre, qui elle aussi fait de la poésie, du spoken word, qui a sorti récemment un long poème épique. Et je trouve ça intéressant que cette jeune génération anglaise se réapproprie comme ça quelque chose de l'ordre de la poésie. Voilà.
Très bien, Sophie Rosemont, sensible au charme de King Crawl.
Oui, 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 tout à fait. J'aime beaucoup les cheveux roux, mais c'est vrai que quand.
Tu parlais du charme musical.
Mais moi, je parle toujours que du physique, Arnaud. Vous savez bien.
Mais pas
non.
Compris.
Non, mais quand Pascaline parle des pics, oui, et de politique, c'est le cas de Kate Tempest, et c'est le cas aussi par moment dans ce disque d'Archie Marshall. Ce que je tiens à souligner, c'est que c'est quand même un multi-instrumentiste assez accompli. Il joue de tout sur l'album, et puis quelqu'un de très curieux.
De groupe quand même.
Il y a l'intervention.
C'est un groupe.
Oui, mais il a joué de chaque instrument tout seul avant de faire appel à ses fidèles musiciens et à un nouveau venu qui s'appelle Ignacio et qui est un saxophoniste argentin qu'il a repéré sur YouTube. Il jouait dans la rue. Il l'a fait venir parce qu'après, c'est aussi le personnage de King Crawl qui est intéressant. Ce mec qui vit encore chez sa mère parce qu'elle confectionne les t-shirts de sa marque de vêtements, chez qui tout le monde passe, des rappeurs comme Régis No qui sont assez récents, des chanteuses comme EBI. Enfin, plein de qu'on retrouvera tout à l'heure d'ailleurs, plein d'artistes qui passent et surtout cette manière de digérer. Et je pense que c'est le premier album où il le fait. Déjà, il se concentre beaucoup moins sur le up-tempo. Ça, je pense que tout le monde l'a remarqué. Et aussi de digérer toutes ses influences. Donc, ça va de Fela Kuti à Nirvana, à Gene Vincent, qui intervient quand même à plusieurs moments. Et avec cette voix, la Joe Strummer, très forte.
Enfin, moi, c'est à Joe Strummer vraiment, qui vous fait penser.
Voilà, il me fait vraiment penser à Joe Strummer dans un évidemment tout autre registre. Et encore.
Enfin, à Joe Strummer qui joue très juste, quoi.
Ne dites pas ça sur Joe Strummer.
Mais c'est pas une tare, c'est un fait.
Et après, oui, ce côté très South London.
Ça participe
cette
du
ville.
Plaisir des Clash que le fait qu'ils chantent faux.
Bon. Ils chantaient pas si faux à toutes les chansons.
Si, ils chantaient absolument faux. Non, mais c'est pas le problème, encore une fois.
On a changé d'époque, on ne peut plus chanter faux.
Bah.
Cette ville de Bermondsey, enfin, quand on parle du sud de Londres et de son voyage à quelques rues. même s'il y a de l'espagnol qui s'invite dans ses chansons. C'est intéressant de savoir que cette ville en elle-même est très musicale, étant donné qu'il y a des groupes comme Palma Violets ou beaucoup plus gros en Angleterre, les Maccabees. Donc, une fois encore, tout est à prendre dans son contexte chez lui. À la fois, tout est hyper intime. Et je parle de mon insomnie, et je parle des médicaments que je dois prendre, est-ce qu'ils vont marcher. Ça pourrait paraître complètement ridicule et ennuyeux, mais dans son langage, c'est hyper drôle et c'est hyper fort aussi.
Alors, on parlait d'une longue déambulation, si je reprends les propos de Pascaline Potvin. Moi, c'est vrai qu'il faut quand même dire que 19 morceaux, 1h17 de musique, c'est pas évident d'avaler cet album. Moi, j'ai eu quand même du mal à suivre sur toute la route. Alors, c'est peut-être une qualité aussi, mais c'est un côté montagne russe. On sait jamais ce que va être la plage suivante. Moi, j'aime plutôt ça. Mais alors, au risque d'un effet compile, dire, mais quel est le véritable ADN de King Krul? Il est multiple. Je crois qu'on l'a déjà entendu ici. Quand vous avez cité Clash, moi, je vais citer un groupe de la même époque, mais beaucoup moins chic, c'est Madness, figurez-vous. Parce que je pense que c'est un petit fils un peu illégitime de cet esprit-là, y compris même parfois dans la voix et dans les accents, mais aussi dans les ambiances. Même ce Dumb Surfer, ça aurait pu être un titre du Madness de la grande époque. Il y a c'est sûr qu'on est en Angleterre, on est dans des quartiers très précis. Il transporte toute une histoire. Et c'est peut-être pour ça, justement, que ce disque est aussi varié, ce qui est au final, je ne ferai pas de suspense plus longtemps, et pour moi une grande qualité, mais qui pourrait quand même en rebuter certains, parce que si on commence à écouter une plage, sauter, etc., on se demande où on est un peu, Olivier Lame.
Je pense qu'il faut laisser couler le disque. Pour moi, c'est un peu de l'ambiance, au sens où Astral Weeks de Van Morrison était de l'ambiance. C'est un peu ça, c'est-à-dire c'est un disque qui a l'air démantibulé, dans lequel en fait on s'installe. C'est vraiment un disque de paysage sonore, en même temps extrêmement travaillé, il faut le dire. C'est-à-dire s'il y a une à part sa voix, s'il y a vraiment un fil rouge sur le disque, c'est les craquements de vinyle. Bon, c'est un petit peu d'ailleurs qui donne un petit côté un peu surjoué, un petit peu exagéré au disque.
Il est un peu jeune encore.
Il y a un petit côté un peu un petit peu masturbatoire, et en même temps, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est l'auto-érotisme dans la manière dont il utilise sa voix. Je pense qu'il s'aime beaucoup, de la même manière que Little Richard s'aime beaucoup. Il est encore là, je ne sais pas s'il s'aime encore autant qu'il s'aimait quand il était plus jeune.
Je regarde les dépêches AFP, sujet. Mais il est là toujours.
S'il meurt demain, on est mal. Tous les matins, tous les matins, on est très mal.
Oui, on est très très mal.
Ça aurait été vrai.
Sa manière d'user de sa voix et d'aimer sa voix et d'en l'exagérer, il y a quelque chose d'extrêmement sensuel. Ça, c'est... Et donc, peut-être que plutôt que de chercher les chansons qui nous correspondent, peut-être qu'il faut plutôt aller vers les textures et vers de tout, de sa voix, du saxophone. De ces sons électroniques qui s'effacent, de ces basses qui apparaissent, qui disparaissent. Je pense que c'est vraiment par là que le disque nous attrape, et je pense qu'il faut le prendre comme ça, et c'est vraiment un disque pour le coup à laisser défiler du début à la fin, ce qui en fait encore une fois un objet assez exceptionnel dans le contexte actuel où on a beaucoup de mal. Moi, j'ai beaucoup de mal à écouter les albums de pop.
C'est sa difficulté, c'est pour ça que je préviens aussi, c'est parce que on est quand même, on en parle tout le temps dans cette émission, on est plus habitué de voir déferler des morceaux et s'installer dans un album aussi long. Je citais la durée, pas pour rien. C'est vrai que c'est compliqué aujourd'hui, c'est pas quelque chose de facile qu'il propose King Krul là.
Non, mais c'est vraiment de l'art rock au sens où on entendait, enfin, au début des années 80, il y a quelque chose quand même de... c'est pas de la pop tout court, c'est quand même quelque chose de...
Et puis il refuse d'être facile, je pense, c'est peut-être pour ça qu'il a refusé d'ailleurs aussi une collaboration selon la légende avec Kanye West. Je pense que c'est quelque chose qu'il recherche, c'est dresser une espèce de barrière, invisible ou pas, avec l'auditeur, et qu'on aille le chercher. Et ça va peut-être avec cette espèce de narcissisme qu'il a. Il a envie qu'on l'aime et qu'on aille le chercher.
Pascaline Potvin ?
Non, mais en plus, je trouve que je suis d'accord sur le fait qu'effectivement, c'est un disque à écouter dans sa longueur, ce qui est justement un peu rare aujourd'hui, exigeant, et ça nous fait peut-être du bien aussi.
Absolument.
Je pense qu'il est assez malin, parce qu'il glisse dans le disque les morceaux les plus accrocheurs, on va dire, comme Dumb Surfer qu'on a écouté, ou d'autres morceaux où les guitares sont un peu plus nerveuses, où ça se réveille un peu plus, pour nous raccrocher juste quand on commençait un peu justement à se noyer, à se perdre. Donc je pense qu'il a effectivement conçu cet album dans cette optique-là, mais qu'il est suffisamment malin pour nous raccrocher quand on va se dire « Ouh là là, je suis un petit peu perdu ». Justement par les guitares qui arrivent, qui sont très nerveuses d'un seul coup, presque grunge des fois. Vous avez parlé de Nirvana, voilà, c'est ça. Et voilà, c'est un disque intelligent à plein d'égards et qui arrive à être intelligent, exigeant et effectivement très sensuel. Donc ça coche beaucoup de cases.
un commentaire latéral, Boris Pinot.
Une tentative de réhabilitation d'Idouane Anagor, pas chic, pas de Ness, cravate, pince et revers tout de même, et un saxo.
Oui, non, mais moi je suis un très 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 grand fan de Madness, hein. Faut-il que je le précise ? Sa discographie, non, mais ça fait partie des disques que je réécoute régulièrement de cette époque-là, ils ne sont pas si nombreux. Donc Madness Forever, oui absolument, et pour l'heure, nous parlions de King Krul. Alors vous allez aller le voir au Casino de Paris, j'imagine, le 26 novembre, sinon ce sera à Fezin, à l'épicerie moderne, le 29, qui sera plus loin pour nous, mais plus près pour d'autres, on a vu, hein, parce que Sophie a une performance live de King Krul sur un plateau télé d'un late show américain. Ça promet, je ne sais pas.
Allez voir sur YouTube, ouais. Vous ferez une idée de ce
de ce que ça peut donner
particulier et de ce bassiste qui fait très très peur, mais la dégaine de King Krul avec son timbre à phare, ses cheveux roux, ses lunettes noires et sa façon de à moitié cracher dans
ah oui, son accent cockney, il est 10 fois plus fort en live, hein. Wow. Là c'est même pas les paroles qu'on comprend plus, ce sont certains des mots
on a du mal à cerner si c'est de l'anglais ou pas à certains
on n'est pas tout à fait sûr. Moi j'adore cet accent. The Ooze de King Krul, sorti chez XL Recordings. À suivre dans la dispute Aurel San et Calypso Valois.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte.
Suite de cette émission consacrée ce soir à la musique avec le nouvel album d'Aurélien Contentin, plus connu sous le nom d'Aurel San, qui vient de sortir donc son troisième album, hein, seulement finalement. La fête est finie. Est-ce le sentiment du musicien qui vient de fêter ses 35 ans ? Peut-être quelques réponses après l'écoute d'un morceau de l'album. Choix, bon, allez, unanime. Christophe, featuring Maître Gims.
Assalam alaikum. Déjà t'as compris que je m'en bats les couilles. Lunettes noires parce que je mate des boules. J'suis déchiré, j'sens pas les coups. Un jour j'ai ramené deux meufs, c'était nul. Ça m'a rappelé que j'ai du mal avec une. On m'appelle Nekfeu quand on me croise dans la rue. Avant j'étais bizarre, maintenant j'assume. J'aime que les mangas, j'aime que les mangas. Et les films de Van Damme, et les films de Van Damme. J'prends pas de bouteille en boîte, j'prends pas de bouteille en boîte. À Carrefour c'est 20 balles. J'aurais pu sauver la vieille France, aider la patrie de mon enfance, donner aux racistes de l'espoir. Mais j'fais de la musique de noir. Christophe Maé, Christophe Maé, Christophe Maé, Kinvé. 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 J'mets que des t-shirts de geek. Japan Expo, c'est la Fashion Week. Tous les matins sont des lendemains de cuite. J'suis pas validé par la street. Marion Maréchal me suit sur Twitter. J'aimerais la baiser, briser son petit cœur. J'ai envoyé ma bite et un emoji fleur. Bonjour à papy, j'suis pressé qui meurt. T'as 10 followers, t'as 10 followers. Tu peux les voir en vrai, tu peux les voir en vrai. Fananananananam. J'aurais pu sauver la vieille France, aider la patrie de mon enfance, donner aux racistes de l'espoir. Mais je fais de la musique de noir. Christophe Maé, Christophe Maé, Christophe Maé, Kinvé. Christophe Maé, Christophe Maé, Christophe Maé, Kinvé. Christophe Maé, Christophe Maé, Christophe Maé, Kinvé. Christophe Maé, Christophe Maé, Christophe Maé, Maître Gims.
Lunettes noires, poker face, j'pose tapis. Arrêtez de faire chier Bernard Tapie. Tu crames les mêmes pas de danse comme Shaki. J'sais plus quel effet ça fait d'être trois fois platine. Ouh, yeah. J'te taquine, j'suis le pont entre Young Thug et George Moustaki. Le noir le plus aimé du central massif. J'comprends toujours pas pourquoi autant de blancs me kiffent. Bernard Minet, Bernard Minet, Bernard Minet, Gory. Eddie Mitchell, Eddie Mitchell, Eddie Mitchell, Johnny.
Christophe Maé, Christophe Maé, Christophe Maé, Kinvé. Christophe Maé, Christophe Maé, Christophe Maé, Kinvé. Christophe Maé, Christophe Maé, Christophe Maé, Kinvé. Christophe Maé, Christophe Maé, Christophe Maé, Kinvé.
Ton visage fait moins de likes que ton boula. C'est plus ton profil, c'est celui de ton boula. On s'en bat les couilles de tes vacances. Les vacances qu'on veut voir, c'est celles de ton boula.
Alors, d'abord, préciser quand même que ce morceau Christophe d'Aurel San avec Maître Gims est le morceau préféré d'Olivier Lame. Il va nous en parler dans quelques minutes, mais on commence ce tour de table avec Pascaline Potdevin sur le nouvel Orelsan, Pascaline.
Alors moi, c'est un disque que j'aime. J'avoue, Orelsan ne faisait pas partie des artistes que j'écoutais très fréquemment. Et j'ai beaucoup aimé le disque. Il est très varié, très riche. Je trouve que la chanson Christophe est extrêmement intéressante parce que pour moi, Orelsan, c'est la variété française aujourd'hui, quoi. C'est du rap français, mais c'est aussi de la chanson française, de la variété française. Et ce qui est très drôle, c'est que quand Orelsan et Maître Gims, qui sont tous les deux des poids lourds de la chanson française, s'emparent de cette chanson et citent comme ça des noms qui vont de Christophe Maé à Kinvé, que je ne connaissais pas, maintenant je le connais.
Oh bah quand même, hein. Et à Bernard Minet, n'oubliez pas.
Et Bernard Minet, Johnny, Eddie Mitchell, Laurie... c'est vraiment une manière de s'approprier ça et de dire, voilà, pour parler rap, ce que je ne fais jamais, mais les boss de la variété française, les boss du game, aujourd'hui, c'est nous. Mmh. Et je trouve que c'est une manière très maligne de le dire. Et l'album d'Orelsan, pour moi, voilà, c'est un album de chansons françaises typiques. Pour moi, la chanson française, la variété, c'est souvent, ça répond à deux choses. Il y a du storytelling, des chansons très picturesques. Là, ce qu'on trouve notamment dans des fêtes de famille, par exemple, où il dépeint une fête de famille où tout le monde en prend pour son grade, de la cousine à l'oncle. Il y a que la grand-mère qui est à peu près épargnée, mais c'est très très acide. Toujours dans le côté comme ça, storytelling picturesque. Les chansons sur sa ville, dans ma ville on traîne, où tout va bien, qui égrène comme ça des choses un petit peu noires. Et la deuxième chose, c'est l'identification. C'est ce qu'il y a de très fort pour moi avec la chanson française en général, les chansons françaises qui marchent, la variété française qu'on retient. Et avec cet album, on est à fond dedans parce qu'il va parler à plein de gens qui ont plein de trentenaires. C'est l'album où Orelsan grandit, est adulte. C'est un album qui parle beaucoup de frustration. J'ai grandi, je pensais que la célébrité allait me rendre heureux, c'est pas le cas. Je pensais que j'allais changer les choses, c'est les choses qui m'ont changé. Enfin, voilà. Et du coup, ces deux principes, identification, storytelling, ça en fait pour moi un très très bon album. Deux chansons françaises, de rap français, mais donc de chansons françaises. Et d'ailleurs, le succès de l'album ne prouve ça, en fait. 100 000 albums, je crois, en une semaine, c'est un carton énorme. Moi, je vois autour de moi, il est écouté par des gens jeunes, qui étaient peut-être son public à la base, et des gens, des trentenaires, qui ne l'écoutaient pas avant. Donc voilà, un bel album de chansons françaises.
Bon, pour l'instant, un seul tweet indigné. Boris Pino.
De Lazarette, oui, qui trouve ça désolant qu'on se coltine les mots crus et vulgaires d'Orelsan à 19h26.
Dispute FC, hashtag affligeant, hashtag nul et nul, hashtag confiancé, hashtag burk. Voilà qui est dit. Il y a quand même une question qui est posée.
Oui, de TBN qui demande si on peut éclaircir un mystère. Christophe Maé, qui me fait ou qui fait?
Kinvé.
Kinvé.
Alors Kinvé, K2EN, plus loin V. Allez chercher, vous ne serez pas déçus. Sophie Rosemont sur Orelsan.
C'est la fin d'un récit d'apprentissage qui est celui d'Orelsan sur son troisième album. Là d'ailleurs, il dit c'est le dernier volet de ma saga. Donc c'est un concept intéressant d'annoncer que c'est la fin d'une période et qu'on va en entamer une autre. Et en même temps, cultiver tout ce qu'on a semé jusqu'ici, notamment une bipolarité totale chez Orelsan. D'un côté... un humour qui lui-même est bipolaire, donc soit c'est très gras, vulgaire, franchement lourd. On marche pas toujours là-dedans. Parfois c'est tellement cinglant, tellement bien amené qu'on rit aux éclats. Ou alors, il y a ce côté bon enfant de Christophe, on va dire. Et cette espèce de mélancolie nostalgique, plombée de cet enfant finalement de la classe moyenne dont il se revendique, dont il est très fier. Il y consacre deux chansons sur cet album. Fils de parents dans la fonction publique, petit-fils de paysan et qui a une espèce de fierté évidemment qui contraste son discours face à celui des rappeurs des cités et qui a toujours été finalement une force chez lui. Donc oui, cette bipolarité est toujours là. Et puis, autre chose que je trouve assez effectivement séduisant dans l'album et ce dont parlait Pascaline, c'est ce côté où il parle à tout le monde parce qu'il prend un petit peu partout les thèmes qui nous parlent à tous, les faits de famille, les gens qu'on croise au lycée qu'on déteste encore maintenant, le fait d'avoir 35 ans plus s'amuser, trouver que la vodka à boule maintenant c'est dégueulasse, avant c'était super, etc. etc. En revanche, j'avoue que sur les morceaux où il a voulu être un peu dans la tendance du temps, c'est beaucoup plus lassant.
C'est-à-dire ? Par exemple, quoi la tendance du temps ?
la tendance du temps, oui, c'est pas l'expression. Mais tout ce qui est vraiment un petit peu trop électroïde, qui va un petit peu dans le terrain, entre guillemets, de PNL, lui cite Bon Iver sur ces morceaux-là. Donc voilà, mais c'est vrai que, par exemple, sur La Lumière, il dit qu'il s'est inspiré des expérimentations récentes de Bon Iver. Bon, ok, mais c'est espèce de quelque chose de très, très, cette espèce de texture sonore très, très électronisante, je trouve que ça lui va pas bien. Autant qu'il reste dans ce côté variété, ce côté pop, qui fait sa force aussi, et c'est ce pourquoi on l'aime. Ensuite, il se laisse un petit peu envahir par deux collaborations, parce que c'est aussi un album de collaboration, deux avec Stromae, où là, la passe Stromae est très très forte, et deux productions de la moitié de The Shoes, Guillaume Brière. Et donc, là, il faut faire un petit peu attention à ne pas le perdre en route. Mais cela étant, oui, mis à part ces quelques réserves, je trouve que c'est un bon album très agréable qui à la fois fait rire, à la fois, je ne dirais pas fait réfléchir parce qu'il n'exagère en rien, mais qui nous le rend encore plus attachant, même si je pense que c'est la dernière fois qu'on voit Aurel San et que Aurélien Cotentin va sans doute passer à autre chose. Je ne sais pas, peut-être un album uniquement de reggaeton.
Vous êtes venue avec votre boule de cristal en plus, Sophie Rosemont.
J'essaie d'anticiper parfois, de deviner.
Magnifique. Vous serez là pour le prochain album de Aurel San, j'espère. Moi aussi, j'espère aussi. Olivier Lam, cette passion pour Aurel San, toute fraîche.
Oui, fraîche, j'avoue. Je me suis pas beaucoup penché sur le cas Aurel San avant. Je m'en excuse.
Vous pouvez vous rattraper, hein.
Oui, je suis pas sûr de beaucoup le faire après ce disque parce que il y a des chansons, je trouve, qui fonctionnent extrêmement bien dans un registre festif. Ça fait penser à de la chanson réaliste qui appuie un peu au bon endroit. Et je trouve, moi, je suis pas d'accord avec Sophie quand elle dit que c'est exagéré de dire que ça fait réfléchir parce que je pense que notamment dans Christophe, il ne se contente pas de citer des chansons d'autres chanteurs de variété, il les massacre, enfin, faut le dire. C'est extrêmement audacieux et on va pas parler de courage, faut pas exagérer, mais enfin, il y va. Enfin,
Il fera pas les enfoirés a priori.
Il fera pas les enfoirés a priori, tant mieux.
tant mieux pour
mais,
lui.
Mais enfin, ce dont il parle dans cette chanson, c'est aussi du fait de faire de la musique entre guillemets noir quand on est blanc et d'être écouté par des blancs quand on est noir. C'est le couplet de Maître Gims avec cette punchline incroyable entre Moustaki et Young Thug. Moi, là, j'avoue que ça me fait absolument craquer. Je trouve le morceau en plus extrêmement bien réalisé. C'est pas inintéressant que Red Sun travaille quand même, à part pour effectivement quelques infidélités. Il travaille avec le même producteur depuis toujours, Scred, et ils ont grandi ensemble. Et je trouve que le mouvement vers la variété, vers la pop, il est à tous les niveaux. Il est à la fois dans l'évolution de son personnage et de sa personnalité. Les deux sont un peu mélangés et aussi dans l'évolution de la musique. Moi, je suis très intéressé par le morceau qu'on entend en boucle depuis un moment et qui est largement, on l'entend parodier, y compris sur l'antenne de France Culture à peu près tous les jours.
Quel morceau ?
Qui est Basique, évidemment.
Basique ?
Ouais, que je trouve qui est un morceau.
C'était le morceau qui a annoncé la sortie de l'album.
Ouais, tout à fait. Ouais.
Avec un clip impressionnant aussi.
Qui est un morceau qui a un gimmick, on va dire, de flow
simple,
très
basique.
Très fort, mais qui en fait évidemment est tout sauf basique, même s'il commence par dire simple parce que vous êtes trop con. Ça a l'air simple comme Twitter, ça a l'air simple comme une embrouille une embrouille très polarisée sur un réseau social. En vérité, ce qu'il a envie de, je pense, de faire passer précisément, c'est ce qu'il défend depuis qu'il a commencé à rapper, c'est la zone grise, c'est les zones grises. Et on a l'impression que c'est presque un morceau d'initiation à la zone grise. Et moi, précisément, je le trouve le plus intéressant, c'est qu'on ne comprend pas exactement où il veut en venir. J'aime beaucoup le morceau Bonne Meuf aussi, qui est une ambiguïté absolument formidable. C'est des pépites au milieu du disque, qui est quand même un disque assez, je trouve, assez plus lourdin quand il est dans une veine égotrip, voire, on va dire, d'autofiction un peu pénible. Moi, ça m'a un peu fait penser à...
Attention.
À Édouard Louis, faut le dire sur les morceaux sur la fête en famille ou sur les morceaux sur sa ville natale de Caen. D'accord. Il y a quand même quelque chose d'assez assez lourd et d'assez pour le coup il coche toutes les cases et je trouve ça moins réussi. D'ailleurs musicalement c'est souvent moins réussi dans ces cas-là. J'aurais aimé qu'il fasse un vrai album de pop un peu qui là, il y a fond, en fait, dans la zone grise, dans la provoque, jusqu'au bout. Ça m'aurait un peu plus intéressé. Là, le disque, je pense, s'il plaît autant, c'est qu'il est assez passe-partout aussi. Il a ses moments, il a ses explosions assez fugaces, comme il y en avait sur les disques d'IAM, il y a 15-20 ans, hein, de toute façon. Et il a aussi ses trucs un peu plus... pesant et pesanti qui rend le disque un peu lourdingue. Voilà.
Bah, plus que Passepartout, moi je dirais qu'il y a quand même une grande efficacité chez Orelsan. Il y a des morceaux, certains qui se donnent immédiatement, ce qui n'est quand même pas donné non plus à tout le monde, mais des mélodies qui sont efficaces et surtout la... quand même une forme de mélancolie, moi, à laquelle j'ai pas été insensible, sur les morceaux Ego Trip dont vous parliez, peut-être aussi sur les morceaux consacrés à sa compagne. Et puis, moi aussi, je pense que ça fait réfléchir à une forme de, j'ose le mot, sagesse dans certains des titres. Le plus évident, c'est le morceau qui clôt l'album, qui s'appelle Note pour trop tard, qui est une sorte de vadémécum pour le 21e siècle, avec tous les conseils qu'il pourrait donner à de futurs enfants ou à celles et ceux qui l'écoutent, parce qu'on l'écoute très jeune aussi, Orelsan, donc ouais, c'est quand même...
C'est une vraie question, ça. Est-ce qu'on l'écoute vraiment aujourd'hui très jeune?
J'en ai deux à la maison, donc je peux confirmer.
Hein. Comme il a 35 ans, j'ai l'impression que ce disque-là s'adresse à des gens de 30-35 ans, mais je me trompe sans doute.
Non, je peux vous dire qu'au moins à partir de 13 ans, ça marche. C'est pas du tout un cas isolé. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui a une place forte, qui est aussi passé d'ailleurs par le programme de Canal Bloqué qu'il faisait avec Stren, justement, qui a été beaucoup vu et qui continue à être beaucoup vu par une très jeune génération et pas seulement une plus âgée. Moi, vraiment, je suis assez épaté toujours par Orelsan parce que je trouve qu'il a une façon d'attraper. Alors, il attrape avec des morceaux efficaces et puis finalement, il nous retient, il nous permet d'écouter d'autres disques. Moi, je trouve que la tracklist, l'ordre des morceaux est quand même... je pense très bien pensé, puisqu'il y a un parcours, on parlait de balade où on se perd, là on se perd moins chez Orelsan, parce qu'il sait très bien, je pense, où il veut nous emmener, mais ça a son charme aussi, Sophie Rosemont.
Il y a un lien entre chaque chanson par des mots clés, mais pour moi le meilleur morceau est l'ouverture, ouais, qui est vraiment un moment de bravoure, enfin je trouve, et même si
on
est dans l'ego trip,
mais Olivier Lam tenait trop à Christophe.
Il voulait absolument écouter Maître Gims, qui est l'artiste préféré d'Olivier Lam, mais il n'ose pas l'avouer.
Il est extrêmement impressionnant sur ce morceau.
Extrêmement impressionnant.
Maître Gims, c'est extrêmement impressionnant tout court.
Oui, tracklist, cet ordre des chansons, vous avez vécu comment, Pascaline Potvin?
Je suis effectivement d'accord sur San, qui est un très beau morceau et qui m'a rappelé Mike Skinner de The Streets. Notamment le premier album Original Pirate Material, et d'ailleurs que Didier Rascal, qui fait un featuring sur une des chansons sur Zone, cite en fait, alors j'ai pas très bien compris ce que dit Didier Rascal sur son featuring, parce que il rappe très 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 vite. J'ai l'impression que c'est un peu un couplet un peu méta où il dit voilà, je savais pas trop qui était Orelsan, je l'ai croisé, il m'a demandé de faire un featuring, j'ai dit ok, et à un moment il dit il me rappelle Mike Skinner de The Streets, et effectivement le premier morceau San est vraiment dans cette veine-là, très épique, émouvante, un truc de lucidité aussi assez poignante. Et c'est vrai que pour en revenir à ce tracklisting, l'album qui s'ouvre sur San et qui se termine donc sur Note pour plus tard, ce vadémécum comme vous dites pour un enfant éventuel, ça donne beaucoup de cohérence à l'album, ça fait une belle boucle, voilà.
Olivier Lam, dernier mot.
J'ai oublié de parler de Renaud, parce que je pense je pense qu'il y a une vraie filiation entre le Renaud des tout débuts, évidemment, quand il était une sorte de porte-parole d'une certaine France et qu'il avait surtout une espèce de manière de formuler des choses qui faisait mouche, enfin vraiment. Mmh. Et là, effectivement, il a un sens de la formule. Je crois que c'est la première fois sur un disque où l'œil très acéré, en fait, le décryptage, en fait, est prolongé et incarné par une plume. Je crois qu'il était assez, il avait une plume un peu mollassonne avant, un peu moins virtuose que d'autres rappeurs. Là, il y a quand même effectivement on passe un niveau.
Bien, ben voilà, pour Orelsan, la fête est finie, pas pour nous, troisième bureau, beaucoup de concerts, Lazare va pouvoir aller voir Orelsan en concert pour se faire une autre idée. Alors ça commence au mois de février, la tournée, ça partira de Caen le 2 février, hein, chez lui, et ça ira jusqu'à Marseille le 28 mars, beaucoup de dates entre les deux, Montpellier, Lyon, Amnéville, Genève, Dijon, Strasbourg, Grenoble, etc. etc. Le 15 et 25 mars à l'Accord Hôtel Arena à Paris, puis ça continuera à Angers, Rennes, Rouen, Bruxelles, Clermont Ferrand et donc Marseille pour les concerts d'Orelsan.
France Culture,
La Dispute,
Arnaud Laporte.
Le troisième sujet de cette dispute consacrée le mardi soir à la musique, c'est le premier album de Calypso Valois qui suit finalement les traces de ses glorieux géniteurs Élie Jacquenot. Elle qui avait débuté comme comédienne, carrière qu'elle poursuit hein, désormais en parallèle de celle de la musique. L'album Cannibal, dont elle a écrit et composé tous les morceaux, est produit par Yann Wagner. Alors j'ai beaucoup hésité hein, sur la plage à faire entendre à nos auditrices et auditeurs ce soir, selon que je souhaitais faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Ma préférée est Témo, je le dis tout de suite, mais puisque Sophie Rosemont et Pascaline Potvin ont un choix commun, et Olivier Lame, pas de choix, on en reparlera, je m'y suis plié. On va donc écouter à présent le morceau Apprivoisé. Apprivoisé de Calypso Valois n'aurait pas été mon choix pour défendre ce disque. Il me semble que ce morceau, on va en reparler, cristallise quelques-uns des problèmes de l'album, selon moi. Mais bon, pourquoi ce choix, Sophie Rosemont ?
Parce qu'il fallait choisir une des chansons, tout simplement, que je trouvais qu'elle était assez groovy pour, pour accrocher nos chers auditeurs. Même si j'aime profondément cet album de A à Z, donc c'était un crève-cœur de choisir. On aurait pu prendre Le Jour, qui est une ouverture assez trépidante, ou un morceau un peu plus, chanson. Chant fortien comme Témo. Celui-ci a fait preuve du groove dont fait preuve qu'elle-même Calypso Valois, qui là voilà, quel joli chemin que celui de Calypso Valois, fille d'eux, effectivement, qui aurait pu se contenter d'être fille d'eux, et pas du tout. C'est-à-dire qu'à part un titre qui est Méchante fille, qui a été un clin d'œil évident à Élie Jacquenot, à espèce de pop très ludique, faussement ludique des années 80, on est plutôt dans un hommage aux bandes originales de films des années 70, à Chamfort, à Dao qui est son parrain, à Françoise Hardy, à Brigitte Fontaine, et avec des petites incursions du rap californien des années 90, quelque chose d'assez groovy, d'assez funky, une très jolie écriture, des très beau texte, qui là aussi joue de contraste. Il y a du vice, il y a de la pureté, il y a de la jouissance, il y a de la mélancolie, il y a du danger, il y a du jeu, il y a de la rigueur, il y a de la folie, il y a de la manipulation, il y a de la naïveté. Donc tout ça dans chacun de ces textes. Donc de la belle qualité d'écriture et puis les mélodies que je trouve accrocheuses à chaque fois, que ça soit en mode slow, surprise partie, boom, ou ritournelle, entraînante, fédératrice, tout ça me plaît énormément. Et c'est assez charnel. Je trouve que ces textes, comme ces mélodies, sont assez charnelles, même si c'est un petit peu refroidi par la production de Yann Wagner, hein, qui de toute façon est quelqu'un qui évolue plutôt dans l'électronique. Mais pourquoi pas, après tout, et sans doute tant mieux. Ça apporte un contraste de plus. Donc moi, je suis complètement enthousiaste sur cet album. Je ne me lasse absolument pas. Et plus je l'écoute, plus je l'aime. Et plus je trouve que chaque chanson est extrêmement forte. C'est un petit tube en soi, un titre de pop française, moderne, d'une jeune fille moderne et assez indépendante.
Alors, si on voulait illustrer l'adjectif dubitatif, on prendrait une photo d'Olivier Lam, là, pendant que vous parlez, Sophie Rosemont, parce que vraiment, c'est un festival. Olivier Lam sur Calypso Valois.
Si on dit c'est une fille d'eux, on dit c'est une jeune fille moderne.
Non, enfin, alors, déjà, vous enlevez vos mains pour qu'on vous entende.
Les jeunes gens modernes, ils s'appelaient les jeunes gens modernes pour une raison, dans une époque, dans une contre-culture aussi. Là, on est dans une époque très différente, dans laquelle effectivement il est très difficile d'exister, a fortiori quand on est la fille d'Élie Jacquenot. Qu'elle fasse du Élie Jacquenot, qu'elle fasse le contraire absolument, on va la regarder de travers. Donc ça, je veux pas du tout enlever ce poids-là de ses épaules. Mais de fait, on est quand même en présence d'un disque de variété chic, comme il en sort énormément en ce moment, qui coche toutes les bonnes cases, à la fois dans l'écriture, qui effectivement est un petit peu vulgaire par moment, un petit peu diaphane par d'autres, et qui joue sur les contrastes, que dans les arrangements, qui sont, on est toujours entre Gainsbourg, Morricone, on est toujours dans cette chanson funky molle, post-French Touch, post-air, qui va chercher des bonnes références chez les grands producteurs de disco français, oubliés, soi-disant, des années 70, dont on a eu plein de compilations ces dernières années, et ça va, et tout ça donne un objet qui effectivement est très agréable, mais dans laquelle, moi, j'ai beaucoup de mal à trouver et une identité et en plus une voix, parce que elle chante d'une manière, pour être gentil, on pourrait citer Armel Piolin ou Laetitia Sadier, parce que le disque aussi, on peut parler de ce problème, le disque c'est un disque de fans de Stereolab, c'est un disque de fans de Broadcast, comme on en a eu des dizaines, j'exagère un peu, mais enfin une bonne dizaine, on va dire, ces trois dernières années en France, et moi j'ai envie de dire, on va où avec ça? On fait des disques pour qui? On sort de... Est-ce qu'on fait des disques pour l'entre-soi? Moi, je sais pas vraiment. Je suis très embêté avec ce genre de disque qui est extrêmement bien fait, qui est extrêmement intelligent, qui est sans doute très sincère. Mais j'ai l'impression, je trouve ça, je suis désolé, mais je trouve ça un peu morbide, en fait. Voilà.
Où le mot est lâché. Pascaline Potdevin le ramasse. Et alors, elle en fait quoi?
Alors, elle ne sait pas du tout quoi en faire. je n'irai pas jusque-là. Je n'irai pas jusqu'à morbide. Mais en tout cas, pas de la mort, mais il y a de la violence un peu dans ce disque. Et moi, c'est ce que j'aime. Vous parliez de la grossièreté, de la vulgarité. Moi, c'est quelque chose que j'ai bien aimé dans le disque. Et j'étais aussi sur ce choix de Apprivoiser pour chanson, parce que notamment, je pensais à son clip. Je ne vais pas vous le décrire, mais il a un côté un peu gore. Et dans le clip, il y a des bruits de viscères, de sang qui gicle, d'organes qui s'écrasent sur le sol. Et ça m'a fait penser justement à ces...
Un clip réalisé par Bertrand Mandico, il faut le dire, parce que c'est lui qui l'a fait.
Tout à fait, voilà. Réalisé par Bertrand Mandico avec Nicolas Maury en oiseau d'enfer plutôt que de paradis assez beau. Et ces organes comme ça et ces sons qui giclent sont à rapprocher des grossièretés, de la vulgarité qu'elle injecte comme ça dans ses textes et qui viennent cingler des textes qui sont assez élégants, assez littéraires. Et je trouve que ça lui donne une belle singularité. Moi, je trouve que effectivement, des disques avec ces références-là, la chanson française des années 80, Chant Fort, Hardy, tout ça, on en a beaucoup. La production années 80 aussi, on en a beaucoup aussi. Mais ce qui se dégage là, c'est une vraie personnalité, moi, je trouve. Et j'ai l'impression... Calypso Valo, elle n'est pas actrice pour rien aussi. C'est aussi un disque d'actrice dans la mesure où elle incarne un personnage à moitié domina, à moitié jeune fille en fleurs. Et ça lui donne une singularité que j'aime bien. J'ai un personnage qui se dessine.
On n'a pas eu beaucoup de disques d'actrice en France.
Alors, on en a eu beaucoup. Mais là, disques d'actrice dans le sens où voilà, elle incarne un personnage, mais ça pourrait être un personnage dont on n'arrive pas à s'emparer. Et je comprends qu'on puisse ne pas y arriver. Moi, j'aime bien ce personnage qu'elle dessine. Le fait de faire... quasiment tous ses textes à la deuxième personne, comme ça lui donne une espèce de distance, de mystère, voilà, ce côté encore dominant, un peu cruel, et ça me la rend attachante. J'aime bien ce personnage, c'est un premier album, donc effectivement il n'est pas complètement abouti peut-être, mais ça me donne envie d'en savoir plus sur ce personnage et de voir où est-ce qu'il va évoluer.
Moi je trouve déséquilibré l'album, en fait, entre les morceaux... moi, les morceaux sont des influences Gainsbourg comme Amoureuse ou Cannibale, que j'aime vraiment bien, parce que je trouve une grande efficacité, même s'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, mais quand c'est bien fait, moi, j'y prends plaisir, voire en mode Françoise Hardy, comme le morceau qui ouvre, hein, Le Jour, hein, dont vous parliez. Mais alors, on va dire les Mylène Farmerie, ce qui n'est pas gentil pour les Mylène Farmer, mais comme pour moi Apprivoisé ou La Nuit, qui est pour moi vraiment le morceau que je peux pas écouter en entier. Je comprends pas ce qu'ils font là. Du coup, moi, elle me perd en cours de route, elle me rattrape par moment. Et je préfère aussi, même les, donc je l'ai dit, hein, les belles plages ou balades comme Témo ou Baignade, qui est aussi un très beau morceau. Mais je suis un peu perdu, donc c'est compliqué sur un album qui n'est pas si long pour le coup, mais qui est autant... je parlais de montagnes russes tout à l'heure pour King Cruel, mais là c'était des montagnes russes qui m'emmenaient dans des endroits qui m'intéressent à chaque fois. Là c'est un coup oui, un coup non, et je suis un peu paumé. Vous qui aimez de A à Z, Sophie Rosemont, vous comprenez ce que je veux dire?
Je ne perds jamais. Je comprends ce que vous voulez dire, notamment sur un morceau comme La Nuit, qui est effectivement peut-être celui que j'aime le moins. Non, moi, je ne me perds pas du tout. Au contraire, elle sait exactement où elle va. Elle a bien façonné cet album, qui est un faux premier album solo, étant donné qu'elle avait sorti un disque en duo sous le nom de Cinéma avec Alexandre Châtelard. Et quand Olivier parlait tout à l'heure de R ou même de Gainsbourg, pour moi, c'est pas vraiment un prisme d'influence. En revanche, Tellier, oui, Sébastien Tellier à fond. Mais là, on rejoint ce côté French Touch que vous évoquiez.
Oui, mais c'est un prisme de plus, sinon, parce que Tellier, on peut le relier aussi.
Elle a vraiment un ton qui, comme le soulignait Pascaline, tient aussi à la multiplicité de ses personnages, de ses incarnations. Et ses chansons, elle les incarne tellement bien. Je parlais du charnel tout à l'heure. Et moi, je crois que c'est ce qui me tient de A à Z sur cet album. Ce côté très charnel, très sensuel dans ses paroles et aussi dans ses mélodies. C'est quand même rare de faire des mélodies aussi efficaces tout au long d'un album et de qui plus est d'un premier album. Moi, elle m'emporte toutes.
Un petit commentaire, Boris Pinault.
Oui, sur Twitter, LM écrit sur une calypso valois affligeante, de mollesse facile, c'est lassant cette dictature du bon goût.
Bon, c'est un peu ce que disait Olivier Lame tout à l'heure. Hein.
J'étais peut-être un petit peu violent, je sais pas, mais je me suis vraiment posé
morbide,
la question.
Morbide, c'est pas le truc le plus...
Bah oui, mais en même temps, on est tous...
Non,
en l'occurrence, c'était pas un compliment.
On est beaucoup, il y a beaucoup d'artistes qui sont pris dans ce paradoxe de notre époque, où tu cherchais la voie de sortie. Je me suis beaucoup posé la question à l'écoute du disque, savoir si le disque était un symptôme ou une voie de sortie. C'est, je pense, un mélange des deux, peut-être. Je veux bien l'entendre plus, parce qu'effectivement, bah oui, c'est très bon goût tout ça, très très bon goût.
Mais enfin, King Cruel aussi, quelque part, est de bon goût. Tout le monde s'extasie sur cet album. Oui, parce que c'est un peu plus obscur, que c'est un peu plus référencé, qu'on s'y perd plus, etc.
C'est un petit peu plus aventureux quand même.
C'est un peu plus... c'est aventureux d'une autre manière. Mais en tout cas, le mot bon goût, espèce de reproche qu'on sort très facilement, le goût des autres, n'est-ce pas?
Non, mais le bon goût actuel, c'est les Fishback, c'est toute cette vogue comme
on
ça.
Et là, on est très loin de Fishback.
Oui,
pas sur tous les morceaux,
on est loin de
hélas.
Aussi, je trouve,
pas sur tous les morceaux, hein. Enfin bon, ce studio est partagé en deux, sur le Calypso Valois.
Non, je disais, je peux entendre effectivement ce reproche de bon goût, mais je le trouve justement, je trouve que ce qui pourrait être, qu'on pourrait trouver un peu désincarné, se réincarne dans ce personnage, dans ce côté un peu drama queen. Il y a même des petites touches d'humour dans l'album qui soulignent ça. Et voilà, j'ai envie d'en savoir plus, j'ai envie de la connaître mieux.
Bon, écoutez, vous qui nous écoutez, l'album Cannibal de Calypso Valois chez Piast pour vous faire une idée. Et puis si vous aimez, vous pourrez aller la voir en concert le 18 novembre à Annemasse, le 23 novembre à Canteleu, le 25 novembre à la Gaîté Lyrique à Paris et le 5 décembre à Lille. Et concluons avec le jeu de la dispute. Comme chaque soir, Grégoire Di Fiore nous a rejoint pour d'abord nous rappeler la question du jeu d'hier au soir et nous donner dans la foulée la réponse. Grégoire.
Quelle chanteuse illustra le conte écrit par Michel Onfray?
Et la réponse était
Mylène Farmer.
Et ben voilà, on y revient. On fait gagner ce soir des coffrets DVD de Lina, 6 films de théâtre. Quelle est la question, Grégoire?
Quel célèbre dramaturge a réalisé le film Molière?
Votre réponse, avec vos coordonnées postales, sont à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Toutes les informations concernant cette émission sont à retrouver sur notre site internet franceculture.fr à la page de la dispute, un site sur lequel vous pouvez réécouter les propos éclairés de nos critiques. Vous pouvez aussi en profiter pour vous abonner au podcast de l'émission. Vous pouvez préparer également vos commentaires pour l'émission de demain, poster sur la page Facebook La Dispute FC dès maintenant ou en direct sur le compte Twitter Dispute FC. Demain, 19h, Dispute Art Plastique. Je serai avec Corinne Rondeau, Anaël Pija et Stéphane Coréard à notre programme Bourdel et l'Antique, une passion moderne. C'est au musée Bourdel. Nous parlerons de la carte blanche à Camille Henrot, Days Are Dogs au Palais de Tokyo et puis de l'exposition de Daniel Buren, Pyramidal à la galerie Kamel Menour.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
France Culture présente We Blew It, un film de Jean-Baptiste Torré.
You know that saying, sex, drugs and rock and roll?
Comment l'Amérique est-elle passée d'Easy Rider à Donald Trump? Que sont devenus les rêves et les utopies des années 60 et 70? Du New Jersey à la Californie, ce road movie mélancolique dresse le portrait d'une Amérique en pleine campagne électorale et donne la parole à des cinéastes connus et méconnus ou à l'homme de la rue.
If you vote for Hillary, and if I was in the Marine Corps serving you again, I would not fight for you.
We Blew It.
Because you don't deserve it.
Le 8 novembre au cinéma, un film France Culture.
Et We Blew It, on en parlera vendredi dans la dispute. Je vous rappelle, j'en profite encore un peu de pub pour dire que c'est en direct et en public chaque vendredi soir au bar Le Bel Air à la Maison de la Radio. Pour l'heure, votre soirée sur France Culture, 21h, Marie-Monique Robin, la réalisatrice, sera l'invitée de Marie Richeux dans Par les temps qui courent. Dans les carnets de la création d'Aude Lavigne à 20h55, c'est l'auteur de bande dessinée David Sala. 20h30, fiction de France Culture, deuxième épisode de Mon enfant de Berlin, Dan Wiazemski. Et tout de suite, à voix nue.